son frère. Tandis qu'au Burkina Faso, le domicile est choisi d'un commun accord, mais en cas de désaccord, l'opinion de l'homme prévaut. C'est une remarque de la salle qui m'a fait penser à la constitution de Henri VIII, la première constitution de Napoléon Bonaparte, dans laquelle il est dit que le premier consul a voix délibérative et que le deuxième et troisième consul ont voix consultative. Troisième cause à ce pourquoi, la reproduction du modèle masculin de domination par les femmes. Vous avez été très nombreux à souligner cela. Et je passe parce que j'ai trop de choses à vous dire. Je voudrais en arriver à mon dernier point de ce triangle de velours. On a vu que se passe-t-il. Pourquoi? Troisième point, que faire? Quel objectif pour les femmes? Faut-il retenir comme ligne de mur une répartition 50-50? C'est comme je pose la question, j'aime bien vraiment ça. En tout cas, ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait un pourcentage dans plusieurs secteurs, pour les bourses, pour les postes. Madame la ministre Pendambo l'a souligné très clairement. Et je vais revenir, puisque je vous parlais de l'homme de gauche au tout départ, et je vous ai dit que ce serait mon fil rouge, je vais revenir à ce que dit Hélène de gauche dans sa déclaration. Elle dit dans l'article 1, « La femme n'est libre et demeure égale en droit à l'homme. » Et dans l'article 6, elle dit que l'élaboration de la loi doit être le fait des citoyennes et des citoyens. Et dans son postambule, puisqu'elle a fait un postambule, elle rappelle que l'éducation nationale doit concerner aussi bien les filles que les garçons. Nous étions en 1791, les choses n'ont peut-être pas autant changé qu'on le souhaiterait. Alors l'histoire de Grèce de foisonne d'exemples de mise de côté des femmes dans les sociétés politiques, Caroline de Haze l'a souvent relevé, foisonne d'exemples de misogynie. Il suffit de penser à Rousseau, à Athènes, Marceline Vanga l'a relevé elle aussi. Et pourtant, on a des exemples dans l'histoire où les femmes ont occupé des postes de premier plan. Je pense à l'Égypte ancienne, on a des femmes pharaonnes, on a des femmes préfètes en Égypte ancienne. Je pense à Irène de Constantinople, je pense à Élisabeth Ière, on a des quantités d'exemples. Alors, l'histoire n'est pas la seule cause. Ça n'était pas pire quand on remontait plus loin. Elle n'est pas là, la raison. Elle n'est pas là. Il y a eu, à mon avis, ça c'est très personnel, je vais faire quand même mes étudiants, quand je dis une idée personnelle, je le leur précise. Il y a eu, à mon sens, au XVIe siècle, une fermeture sur la notion du corps, du moins en Occident, et cette fermeture a entraîné un assujettissement plus grand des femmes. À tel point qu'on ne parle même pas très souvent du corps, on n'en parle plus, et je salue très chaudement Salimata Diop, qui a osé parler des règles des femmes et de leur grossesse. Merci, madame. Ne faudrait-il pas aussi, dans ce que faire, une ouverture des femmes universitaires vers d'autres secteurs professionnels pour décloisonner les esprits? C'est ce que suggère Kuro Kamnyang. Et si la peur, et ça c'est de moi, et si la peur était plus forte que tout? En Tunisie, les majeurs en géologie sont des filles. C'est ce que nous dit Knar Ben Ismail. Et ça me rappelle le temps où j'ai enseigné à Saint-Cyr. J'ai enseigné à Saint-Cyr quelques années. Les filles doivent subir les mêmes épreuves que les garçons, académiques et sportives. Et une année, c'est une fille qui a été majeure à Saint-Cyr et ces messieurs s'en trouvaient fort dépités. La formation à l'égalité de tous les décideurs est donc indispensable, Caroline de Haze le dit, Daniela Reventas-Boussani aussi, Rosalie Milan, et la formation des femmes par les femmes qui ont réussi est un impératif. Sebazif Ba le disait, Aïssatou Sofi Gadima se rapproche également de cette position. Alors, y aurait-il, puisque on semble avoir des solutions, y aurait-il une indifférence générale, et là je pense à la BSI. Vous savez que dans le contrat, la BSI dit qu'on ne peut rien contre le tyran. C'est même inutile de tuer le tyrannicide est inutile. Si les hommes ont un tyran, c'est parce qu'ils le veulent. Et la leçon est très forte et résonne avec une acuité particulière ici, me semble-t-il. Je vous ai donc parlé dans ce grand temps du triangle de velours, c'était mon premier point, mon premier état des lieux. Dans un deuxième point, grand B donc, théorie et pratique. Dans un environnement privilégié comme celui des femmes universitaires, comment peut-on comprendre les résistances communes qui se dressent contre les femmes, à l'instar de ce qui a cours dans les strates les plus fragiles de la société? N'y a-t-il pas là quelque chose de contradictoire? Alors, pour essayer de comprendre cette différence, cette ce grand écart entre la théorie et la pratique, je vous propose une nouvelle fois de voir trois points. De voir tout d'abord un imaginaire collectif, et j'emprunte l'expression Caroline Boaz, un deuxième point qui sera comment combattre, et puis un troisième point un peu triste, un résultat décevant. L'imaginaire collectif tout d'abord. Il faut, dit Daniela Reventoff et Moussani, faire une distinction entre le niveau désiré et le niveau de facto. Je cite ce que Omar Bouraoui, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes en droit et devant le droit est aujourd'hui reconnu par la grande majorité des États de l'espace francophone. Il se trouve même dans leur constitution, son application reste cependant défaillante. C'est la même chose en France pour les postes de dirigeants, Fabrice Lara le souligne. Et pourtant, depuis 1484, les femmes qui sont chefs de foyer fiscal, c'est-à-dire les filles majeures célibataires ou les veuves, ont le droit de vote pour les députés du tiers-État aux États généraux. Elles ont ce droit-là, à condition de voter par procureur, c'est vrai, mais elles ont le droit. C'est la Révolution française qui leur fera perdre leurs droits politiques. Et il faut attendre après beaucoup plus longtemps pour voir ces droits politiques réapparaître. Alors j'ai fait l'exemple de la Norvège qu'on connaît très mal en règle générale. En Norvège, les femmes obtiennent le droit de vote sous réserve d'un revenu minimum dès 1901 pour les élections communales, puis en 1907 pour les autres élections. Et donc, puisque les femmes sont électrices, elles sont aussi éligibles. Et la première femme députée norvégienne, c'est Anna Rogstad, qui a été élue en 1911. Dans le cas du monde universitaire, l'illusion de l'égalité est encore plus difficile à cerner, car on est dans un système de relations personnelles, où, de plus, on analyse et où on conceptualise ensemble. C'est ce que disait Caroline Boaz, et donc c'est encore plus incompréhensible. Donc, voilà quel est l'imaginaire collectif. Voilà de quoi on part, et ça n'est pas extraordinairement clinquant. Alors, deuxième sous-partie, comment combattre? Comment combattre? On a vu l'imaginaire collectif dans théorie et pratique. Deuxième point, comment combattre? Au Sénégal, ce combat passe par des projets précis comme le projet PAPES, le projet d'appui à la promotion des enseignantes chercheuses du supérieur. C'est Kourou Kamenyang qui nous en a parlé. Et bien, Salima Tayab propose d'en généraliser la pratique dans tout l'espace francophone. Ce qui n'empêche pas ce projet PAPES que ce qui n'empêche pas au Sénégal qu'il n'y ait pas de femmes rectrices d'une université rebondie, Geneviève Brenonsard. Par ailleurs, l'étude menée sur les résultats du concours d'agrégation dans le cadre du CAMES, c'est-à-dire le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, fait état d'un nombre éthique de femmes agrégées, c'est ce que nous disait Dandy Niamou. Car le concours administratif, qui ne devrait déceler que les talents, ne parvient pas à réaliser l'égalité, dit encore Fabrice Lara. Comment combattre donc, puisque c'est le titre que j'ai donné à cette sous-partie, comment combattre implique de se poser la question comment protéger le corps, notamment les pratiques liées à l'abus sexuel, ce qui a été relevé au départ par une question de la salle. Et ne vaudrait-il pas mieux parler de l'omerta qui pèse sur le sexe à l'université et dans la société en général? Les hommes sont aussi victimes, comme le rappelle Soukaina Bouraoui, certes statistiquement beaucoup moins que les femmes, mais c'est une réalité. Parfois harcelés à l'université, ils sont violés dans les conflits, on n'en parle jamais. Et puisqu'il y a des journalistes ici, il est très rare que j'ai trouvé dans un journal le cas de viol d'hommes relaté dans les narrations de conflits. Ça n'est pas quelque chose de croustillant, mais ça mérite quand même d'être dit. Or là, on se fracasse, à mon avis, sur un des plus gros tabous. Et je salue très fortement Marceline Momo-Vanga d'avoir osé évoquer la première dans cette rencontre, cet aspect-là. Il faut donc légiférer sur le harcèlement sexuel, nous le verrons dans les propositions tout à l'heure. Mais ne soyons pas naïfs, relève une question de la salle, la sexualité transactionnelle existe aussi, et pas seulement à l'université. Alors, paradoxalement, peut-être les critères scientifiques très précis qui s'appliquent dans le domaine des sciences dures permettent-ils de faire une place sinon plus large, du moins plus tolérante envers les femmes qui possèdent une réelle qualité scientifique? C'est ce que nous dit Evelyne Garnier-Zarry. la loi libère, en somme. Libertas in legibus consistit. C'est un vieux principe de droit romain. Peut-être. Peut-être. Agnès Hubert rappelle que souvent, les femmes ont moins de publications que les hommes, ce qui est dû non à la qualité, mais au rythme de la vie. C'est comme le passage des avions. Ces droits de cuissage, comme les nomme Madame la ministre Pendambo, sont en tout cas moralement inacceptables et nous ne pouvons plus accepter ces pratiques qui ont été générales jusqu'au XVIIIe siècle en Occident. L'usage du sexe mâle était un instrument de pouvoir à l'égard des femmes et des hommes et des catégories défavorisées. Alors, pour sortir peut-être de ces vernières-là, comment combattre? Je me retourne vers les morts. En Suède, on a eu une initiative tout à fait intéressante qui s'appelle les Folkhögskolor, c'est-à-dire les hautes écoles populaires, si je traduis notamment. Elles datent de 1868 et elles sont très marquées par le nationalisme, par la volonté de développer la démocratie et de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Pardonnez-moi, 1868 en Suède. Et elle se différencie de l'expérience de leur voisine norvégienne qui s'appelle à peu près de la même façon un Folkhögskole, qui avait cours donc en Norvège et bien sûr au Danemark, dans lequel la volonté suprême était de faire passer l'enseignement délivré par le professeur. Vous avez donc deux lectures de l'enseignement qui sont tout à fait intéressantes dans ce nord de l'Europe qui vont rétroagir sur la cause des femmes. Il convient aussi, je prends une autre solution pour combattre, il convient aussi de créer une synergie, dit Françoise Spitz. Les mondes politiques, associatifs et universitaires doivent concourir à un but commun avec des positions distinctes. Alors, il semble bien, et peut-être plus encore dans les pays du Sud, que les femmes universitaires doivent s'engager dans la politique, comme plusieurs interventions le suggèrent en réponse à une question directe de la salle. Dans cet aspect théorie et pratique, je vous ai envisagé l'imaginaire collectif, une réflexion sur comment combattre, une sorte de point ponctuel, un résultat décevant. Troisième entrée. Un résultat décevant. Deux tiers des analphabètes dans le monde, à peu près, sont des femmes. Soda Diouzba le rappelle. Lorsqu'en 1880, en France, le débat est apparu sur la création des lycées de jeunes filles. C'était un projet de loi apporté par Camille C. La presse s'est déchaînée, presse de droite catholique bien sûr en latin, presse de gauche socialiste très engagée. Aussi, tout le monde est monté au créneau. Et toute la presse, unanime, a titré, avant de créer des lycées pour jeunes filles, encore faudrait-il s'assurer que les femmes sont capables d'apprentissage. 1880 en France. Et quand la loi a été votée, on a dit c'est pas étonnant qu'un lycée c'est un juif. C'est vrai, c'était un juif. Mais c'est pas une raison. Et ça n'a strictement rien à voir. Et il est là, justement, l'inconscient agressif. Aussi bien contre les juifs, cette fois, que contre les femmes. Alors, les combats et les résistances de la société contre les barrières d'exclusion des femmes existent. Par exemple, au Sénégal, Rosalie Adjaye Diop en a fait part. Et pourtant, la construction et la pérennisation des égalités entre les hommes et les femmes demeurent, en France aussi, malgré le dispositif mis en place dans les années 1980, c'est Delphine Maudier qui le dit. Pourtant, l'égalité entre les sexes est un principe démocratique. Le mot est de Marceline Nomo-Vanga. N'est-il pas temps de donner un label de qualité aux universités accordant une place à la notion de genre? Soukaina Bouraoui pose la question. Pour atteindre cela, il faut changer de regard. Et la pluridisciplinarité dont on nous rebat les oreilles est évidemment vitale, mais elle doit être réelle. Il ne s'agit pas de juxtaposer ce que savent les uns et les autres, sinon on fera du communautarisme. Nous sommes tous des juifs allemands. C'est vrai, il ne faut jamais l'oublier. Mais il faut aller plus loin, à mon avis, et ça c'est de moi. Il faut tenter de comprendre l'autre de l'intérieur. Devenir femme quand on est homme, ou l'inverse. Devenir blanc quand on est noir, ou l'inverse. Devenir hétéro quand on est homo, ou l'inverse. devenir juif quand on est musulman, il inverse, et je pourrais égrener longtemps la litanie des catastrophes. C'est-à-dire, vivre le monde en empathie, non pas simplement avec son intelligence et avec sa raison, mais avec son cœur, avec sa sensibilité. Un peu, c'est l'expression que je prends à mes étudiants, un peu comme la grenouille respire. Vous savez que la grenouille n'a pas de système respiratoire, elle respire par la peau. Il me semble que nous devons aujourd'hui respirer par la peau et non plus simplement par les poumons. Il faut entrer en l'autre, avec l'autre, être l'autre. Alors, si on réussit à faire cela, à ce moment et à ce moment seulement, on pourra reconstituer une vraie respublica qui unira les hommes et les citoyens, les femmes et les citoyennes, les hommes et les citoyennes, les femmes et les citoyens. Le courant Canyon préconise en complément de toutes ces hypothèses susceptibles de nous faire sortir de l'impasse des publications du type revue pour des secteurs spécialisés et liés aux recherches de femmes. Nous étions, dans ce premier point, dans un état de lieu. J'ai essayé de vous présenter un regard et de rester statique un peu au niveau de ce regard en vous lançant un petit mouvement de danse que je vais continuer dans ma deuxième partie. Donc après le triangle de velours, je vous suggère de voir dans une deuxième partie de la localisation à la conscience. Nous allons passer de l'espace au temps. Comme dans n'importe quel milieu, les femmes universitaires se fracassent sur des stéréotypes. Ceux que les hommes leur opposent, ceux qu'elles reproduisent elles-mêmes. L'inéluctabilité d'un fatum, le contexte est lourd, car elles ne peuvent faire totalement abstraction de leur culture et de leur polymorphe, pas plus que les hommes. Mais si la bonne volonté ne suffit évidemment pas, elle constitue cependant un préalable qu'elles sont peut-être, elles, les femmes, mieux à même que les hommes de faire advenir dans un monde renouvelé et plus intelligent. C'est ce que je vous suggère de voir en deux parties, là encore, parce que je suis toujours juriste. D'abord, dans un premier point, le plafond de verre, et dans un deuxième point, du genre à l'être humain. Lux mais Alex, Monsieur le ministre Marie Thunian a utilisé cette expression. Or, cette lumière, la lumière est malheureuse, cette lumière révèle que le pouvoir ne peut pas être uniquement masculin. Au demeurant, ce plafond n'est pas de marbre ni de rein, comme le soulignait Monsieur le recteur Bernard Fekilini. Une des voies de sortie qui se trouve dans les lois sur la parité a été soulevée par beaucoup d'entre vous, avec des coordonnateurs pour les faire appliquer. C'est très important d'accompagner le texte de mesures concrètes. Nous nous situons ici dans les objectifs de base de l'AIF, comme le rappelle Leila Saadé. Et c'est pourquoi elle préconise la création d'un observatoire. Alors, pour comprendre ce plafond de verre, nous allons, puisque nous sommes dans la deuxième partie, nous allons avoir deux portes d'entrée et non plus trois, comme dans les premières sous-parties. Je vais nous envisager successivement l'intériorisation de la norme et une question par la suite vers une nouvelle norme, point d'interrogation. L'intériorisation de la norme tout d'abord. La ségrégation, on le sait, dans la société est horizontale, elle est polymorphe, mais elle est aussi horizontale. On a par exemple plus de juges pour enfants femmes et moins de juges d'instruction. C'est ce que nous signale Daniela Roventa-Fremoussani. Et pourtant, dit Agnès Hubert, la politique qui est menée par la Commission européenne de la recherche a pour objectif d'intégrer très largement les femmes. Alors oui, effectivement, je suis allé voir les chiffres de la composition de la dernière Commission européenne. Mes informations venaient tirer de l'IB du 11 septembre 2014, c'est avis des journalistes du journal. Alors si c'est faux, c'est à eux qu'il faut s'adresser, c'est pas à moi. Il y a 9 femmes sur 28 membres. Et pour la première fois, des femmes se retrouvent à des postes clés, comme la concurrence, c'est Margrethe Vestager du Danemark, le commerce, c'est Sylvia Malmström de Suède, le marché intérieur, Elżbieta Bienkowska de Pologne, et la politique régionale, Corina Kretu de Roumanie. Alors, cette intériorisation de la norme, c'est l'histoire d'un combat qu'on va voir se dérouler sous nos yeux. Celui des Sénégalaises, puisque nous sommes au Sénégal en premier lieu. Rosalie Adaï Diop le met en avant. Une solution originale pour sortir les femmes, pour faire triompher ce qu'on a, consiste peut-être dans la création d'un diplôme, comme le master et le doctorat dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation humaine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme le rappelle Salima Tayyab. Même si, en fin de compte, peu de Sénégalaises se retrouvent au poste de direction, Madame la ministre Tendambo le rappelait encore. Il y a d'autres initiatives, elles sont multiples, et j'en cite une parce que la créatrice est une de mes amies. Alors vous voyez, c'est très éhonté, je personnalise le débat, c'est très mal, et pas académique du tout. Mais Latifa El Mahadati, à Mohamed V, à Rabat, a monté un très beau master. Et j'ai assisté à la création de ce master, elle m'en a beaucoup parlé, je l'en ai énormément félicité, je suis très fier d'elle, et c'est pour ça que je vous le dis, qui s'appelle Genre et Fonction Publique. Et la première fois qu'elle m'en a parlé, je lui ai fait une réflexion d'imbécile, je lui ai dit, pas de défi là-dedans. Et elle m'a dit non. Pense sur le bec, comme on dit au canard. Alors, la question que je me pose, pour essayer de donner du mouvement, les femmes dans la société ne sont-elles pas comme les pauvres? Le pauvre se fait invisible. Il demande qu'on l'excuse d'être là, et s'il parvient au pouvoir, il prie qu'on veuille bien l'accepter. La République véritable n'adviendra vraiment que le jour où tous ces éléments posséderont une égale dignité et un semblable droit à l'existence. L'histoire, malheureusement, nous apprend que cela n'a jamais existé en Occident. Même s'il y a eu des femmes au poste clé, même si elles ont exercé le pouvoir, ça n'était pas dans les consciences. On en est entièrement d'accord. Alors nous avons tout à construire, c'est merveilleux, ou à reconstruire. Comme au Sénégal où la colonisation et Aïssa Touss aussi gladiment a mis les facteurs en pleine lumière et l'islamisation ont chassé les femmes d'un pouvoir dans lequel elles étaient largement présentes, et on se souvient de la reine Ndatayala de la région du Wallo au 19e siècle que Madame la ministre Tendambo a rappelé. La colonisation et l'islamisation, deux phénomènes et qui marchent l'ombre avec la globalisation. Parce qu'on nous parle toujours de la globalisation économique anglo-saxonne, elle est réelle, on en souffre tous. Mais l'occidentalisation de tous les concepts, mais évidemment quand on est un homme blanc, bon, ça choque pas trop, mais si on se met à la place de quelqu'un d'autre, ça choque beaucoup, évidemment. L'islamisation, quand on est musulman, ça choque pas trop, mais si on n'est pas musulman, ça choque beaucoup. Et tous ces concepts-là, qui seraient universels alors qu'ils sont culturels, ne pourront jamais réaliser la concorde universelle qui est la seule à même de faire advenir un homme nouveau à la face du monde. Alors cette intériorisation de la norme qui a été le fait des femmes, elle peut et elle doit être fissurée à l'université. Parce que l'université, c'est un lieu de contestation, comme le soulignait Madame la ministre Tendambo. Intériorisation de la norme, c'était le premier point dans ce plafond de verre. Deuxième point, une question vers une nouvelle norme. Lorsque les femmes parviennent à un poste clé, elles sont à même de faire avancer leurs idées. Par le biais de séminaires, de colloques, de créations d'enseignements nouveaux, François Pic le met en lumière. Elles sont, je cite Marceline Momo-Zanga, actrice de développement et vectrice de paix. Evelyne Garnier-Zarly souligne le fait que les femmes qui ont des responsabilités ne recherchent pas forcément les honneurs, elles s'attachent beaucoup plus au travail bien fait. Car après tout, à quoi ça sert que les femmes arrivent au pouvoir? Quelle est la valeur ajoutée d'une femme? La question est affusée de la salle. À quoi ça sert? Alors je vais repartir dans le nord. Holberg est un écrivain danois qu'on a complètement oublié dans le sud de l'Europe, qui a écrit en 1725 un voyage philosophique, comme on l'affectionne beaucoup à cette époque-là, qui s'appelle le voyage de Niels Klim dans le monde souterrain. Et Niels Klim, le héros, parcourt, donc il imagine qu'au centre de la Terre, il y a un autre monde, et donc il parcourt tous ces mondes-là. Et il fait une critique acerbe, c'est dans la mouvance de Swift, bien sûr, le voyage de Gulliver, il fait une critique acerbe des travers des gouvernements de son temps. Et puis il arrive dans un royaume qui s'appelle le pays de Coquelicot, Voilà, c'est très intéressant parce que en danois, ça veut dire cocorico. Cocorico, c'est le cri qui est poussé par les hommes quand ils ont réussi à dominer les poules. Et donc, dans le pays de Coquelicot, ce sont les femmes qui gouvernent. Et les hommes font la cuisine, font tous les bas travaux de la société. Et alors, on exclame un bon danois qui arrive dans ce royaume, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que les hommes fassent cela? Il dit, ça va pas marcher du tout. Mais on dit, si, ça marche très bien. Ça marche très bien pour une raison très simple. Le créateur, alors, au verbe littéraire, le créateur a donné la parité aux hommes et aux femmes, l'intelligence et l'imagination. Aux hommes, il a donné une force physique supérieure. Ce qui veut donc dire par là qu'il les destine naturellement aux travaux les plus pénibles. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que ça reprend justement toutes ces idées de juste naturalisme qui se répandent au XVIIIe siècle, dans lesquelles, en principe, on trouve de fort belles raisons pour exclure les femmes de toute la sphère politique. Donc, cette nouvelle norme, de quoi peut-elle venir? Parce que les inégalités demeurent. Les inégalités demeurent et le livre blanc de l'ANEF, l'Association nationale des études féministes, Delphine Médier l'a distribué, l'a montré, en témoigne très largement. Et donc, un peu amer, et notamment Kmar Ben Ismail l'a dit très explicitement, mais elle n'est pas la seule, un peu amer, plusieurs d'entre vous ont constaté que la promotion des femmes au pouvoir était tardive dans une carrière universitaire. Alors, pour advenir une nouvelle norme, il semble que ce ne soit pas évident du tout, y compris dans la sphère la plus privilégiée de la société, c'est-à-dire la sphère universitaire. La sphère politique, c'est du pouvoir à l'état brut. Donc, à la limite, on écrase tout le monde, tous les moyens sont bons, il n'y a pas de règle. Dans la sphère universitaire, c'est aussi du pouvoir. Mais il y a aussi du savoir, et il y a aussi de la réflexion. Et si l'alma mater a un sens, c'est la promotion de l'intelligence. Intelligere en latin, ça veut dire comprendre. Et c'est de cela dont il faut partir. Et même là, il est difficile de faire advenir cette nouvelle norme. Ce plafond de verre, tel que j'ai essayé de le restituer d'après ce que vous avez dit, je vais essayer de le crever. Et donc de vous proposer, en partant bien sûr de ce que vous avez dit, quelques pistes qui me seront peut-être plus personnelles. C'est ce que je vous appelle dans mon grand B, du genre à l'être humain. Du genre à l'être humain. La francophonie est un humanisme, disait Léopold Sédar Senghor, comme l'a rappelé Monsieur le ministre Marie Touniane. Et tout à l'heure, j'ai rapproché les femmes de la notion de minorité. Qu'est-ce qu'on fait toujours? Ce n'est pas une minorité quantitative, c'est une minorité qualitative. Et c'est pourquoi je crois que le simple constat brut ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Notre époque, de surcroît, aime les chiffres, mais elle préfère la magie des images. Il existe encore et toujours un modèle majoritaire dans le monde. C'est celui de l'homme blanc hétéro, qui est même, si vous supprimez toutes les femmes, tous les hommes couleurs, tous les homos et tout le reste, d'une minorité numérique de la population mondiale. Démocratie, c'est donc dès le départ, par le simple jeu de la réalité chiffrée. C'est à partir de lui, cet homme blanc hétéro, que l'on décrit le pouvoir. Le pouvoir sera mâle, blanc, ou du moins conceptualisé autour des valeurs des blancs, parce que même s'il est fait par d'autres peuples, très souvent, et on l'a dit ce matin aussi, les peuples ont perdu leur mémoire avec la colonisation, et donc ils sont obligés de courir derrière les réalités de l'Occident, et le pouvoir sera hétéro, selon la très belle famille. On ne peut pas faire confiance à un homosexuel, parce que si on lui met un beau garçon devant lui, il va perdre la tête. Ah oui, il y a un hétéro, si vous lui mettez une belle fille devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il ne perd pas la tête. Il exerce son droit de mâle. Ah pardon, c'était très différent, effectivement. Et donc, on va en déduire que certaines femmes qui ont exercé le pouvoir politique, ont exercé un pouvoir, non pas d'homme, mais un pouvoir masculin. Et je pense que c'est Catherine Deux de Russie. Catherine Deux, c'est ce qu'on dit souvent à son propos, et on étend cela à sa relation avec les hommes. Vous savez que Catherine Deux aimait beaucoup les hommes, qu'elle a eu un nombre d'amants innombrables, dont Potemkin, bien sûr, et qu'elle a eu, à la fin de sa vie, alors qu'elle avait dépassé 60 ans, son dernier amant, qui s'appelait Platon Zubov, qui avait 19 ans, qui était beau comme un dieu, paraît-il, mais c'était une pauvre petite guape, d'après ce que j'ai pu lire à son sujet, mais qui s'est tout de même attaché à elle, et quand Catherine II est morte, Platon Zubov lui a tenu la main. Ce qui n'est pas si évident d'un autre côté. Alors c'est peut-être aussi une très belle histoire. Et est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que Catherine II a fait du harcèlement sexuel? Est-ce qu'il s'agit d'une conception de masculinité ou d'une conception d'autorité? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir de nouveau là-dessus? Alors je vais repartir de ce qu'a dit Marceline Menon-Zanga. On ne poserait pas la question homme universitaire ou homme de pouvoir pour parodier le titre de notre rencontre. Et d'ailleurs, si on étend cette remarque sur le titre, de quelle femme parle-t-on? Existe-t-il une catégorie unique de femmes? François Pic souligne l'impulsion donnée par le président de la République. La parité existe, mais aussi les diversités dans le gouvernement actuel, et c'est quelque chose qui convient d'être relevé. Nous sommes encore dans le constat du regard, ce n'était qu'un chapeau introductif, ce que je viens de vous faire là, pour vous développer cette partie, cette dernière sous-partie du genre à l'être humain. Je vous propose de réfléchir autour de deux concepts, sexe et genre d'abord, et individu et rôle ensuite. Sexe et genre d'abord. Il faut former les jeunes à l'égalité, dit Caroline de Haze. On en est loin, grande Delphine Maudier qui rappelle que certaines filières universitaires apparaissent féminines, d'autres masculines. Sexe et genre, décidément. Si on signifie les doctorantes sont moins nombreuses que les doctorants, cela vient du fait qu'on les marie après le master pour qu'elles enfantent, dit Knar Ben Ismail. Plus au cœur de l'Afrique, et singulièrement au Bénin, je cite Danli Niamou, peu de femmes poursuivent des études supérieures à l'université. C'est pourquoi l'AES a mis en place des modules d'enseignement à distance, excusez-moi, dans lesquels est souligné le devoir des universités de mettre en avant le genre dans ses formations, et je cite Soukaina Bouraoui. Parce que l'approche genre fait progresser les institutions et la démocratie. Nous sommes toujours au niveau politique. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, il faut aller sous l'angle économique. Ce qui me rappelle que j'ai besoin d'une alimentation en énergie, nous sommes bien dans l'économie. Marché et famille sont de moins en moins séparés, nous dit Daniela Reventas-Boussani. Ça se voit singulièrement en ces périodes de crise économique, et Caroline de Haze insiste beaucoup là-dessus. La crise économique implique les travaux précaires, et donc on peut parler, dit Daniela Reventas-Boussani, d'une féminisation de la pauvreté. C'est une idée sur laquelle rebondit Soda Diosba quand elle dit que la femme pense qu'elle n'est pas qualifiée pour faire de la politique, et que beaucoup d'hommes le pensent aussi. Merci, c'est très gentil. Décidément, la femme se comporte comme le pauvre, qui se croit indigne d'accéder au pouvoir.